wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Camille André, Coppelia Ménardi. Prise de son assurée par Alexandre Dang. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Florent Georgesco, Philippe Chevillier, Jean-Christophe Brianchon. À notre sommaire, un chat qui arrive dans ma gorge. Kayla et la Rouge d'Isaac Bashevis Singer, Fanny de Sylvain Christian David et Poids et Mesure de H.M. Vandenbrink. Boris Pino, lui, surveille les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre vos commentaires. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des hors-séries de La Vie. Martin Luther King, Au-delà du mythe, c'est un partenariat avec France Culture. Nous ouvrons cette émission avec un inédit en livre d'Isaac Bashevis Singer, prix Nobel de littérature en 1978, mort en 1991. Il avait en effet livré un feuilleton dans un quotidien yiddish new-yorkais dont la publication s'était étalée sur les années 76 et 77. Et c'est ainsi que paraît pour la première fois sous forme de livre ce roman, Kayla la Rouge, qui reprend les thématiques qui sont chères à l'auteur, avec aussi forme d'humour très noire aussi qu'il caractérise. Kayla la Rouge est publiée chez Stock dans une traduction de Marie-Pierre B. et Nicolas Castelnau B. On était en 1911, 6 ans après la Révolution. Les grèves et les poseurs de bombes ayant produit leur effet, le tsar Nicolas II promulgua une constitution, mais après l'effondrement de la première Douma, il fallut en élire une deuxième, puis une troisième. Les partis politiques s'affrontaient à la fois en Russie, où se déclenchaient des pogroms, et en Pologne, où on appelait au boycott des marchandises juives. Par centaines de milliers, des jeunes filles et des jeunes garçons juifs passaient la frontière en fraude pour gagner la Prusse ou la Galicie et, de là, s'en allaient chercher fortune en Amérique, au-delà des mers. Depuis des années déjà, les politiciens comparaient dans la presse juive les Balkans à une poudrière. Ils annonçaient une guerre non seulement entre la Serbie, la Bulgarie, le Monténégro et la Turquie, mais aussi entre la Russie et l'Allemagne. Yarmil Atteigne, lui, lisait la presse yiddish. Il venait de Psiaksk, la ville des voleurs. Plus tard, il avait même étudié dans une yeshiva à Lublin. Si un copain voulait écrire à ses parents ou à quelqu'un à Buenos Aires, il venait lui demander de rédiger la lettre en yiddish, avec l'adresse en russe. Yarmi achetait le journal tous les matins. En réalité, il ne s'intéressait qu'au roman feuilleton, La femme en sang, ou La belle dame trompée et autres histoires de la même eau. Il en lisait parfois des passages à Kayla ou lui faisait des résumés. Elle s'exclamait alors, ses yeux verts étincelants, « Oh, ces écrivains, ils ont non des idées incroyables. Ils réussiraient à faire se battre des montagnes. » Pardon à Isaac Bashevis Singer pour ma voix un peu contrariée aujourd'hui. J'espère que les autres n'auront pas le même sort, mais c'est ainsi que s'ouvre, ou presque, ce livre qui nous arrive, à moins qu'on l'ait lu, effectivement, dans ce quotidien yiddish à la fin des années 70. On ne le connaissait pas. Jean-Christophe Brianchon, pour commencer.
C'est un livre qui nous arrive de la presse, d'après ce que j'ai compris, ce que j'ai appris en lisant ce livre, comme tous les autres livres d'Isaac Bashevis Singer, qui apparemment étaient tous publiés sous forme de feuilleton dans le Jewish Daily Forward. Ce que je trouve assez intéressant sur le plan historique, de la même manière que ce livre est intéressant, je pense, sur le plan de l'histoire littéraire, de l'histoire littéraire au sens du parcours de la démarche littéraire d'Isaac Bashevis-Singer, parce que en soi, même si je suis à l'origine de la programmation de ce livre dans cette émission, puisque c'est moi qui vous l'avais soumis, absolument, je suis pas forcément emballé par ce livre en tant qu'objet, si on le considère comme un livre étant sorti aujourd'hui et comme une nouveauté d'Isaac Bashevis-Singer. Je pense que c'est intéressant si on le remet dans une perspective, on va dire, historique de la démarche d'Isaac Bashevis-Singer, et si on considère, comme le pense apparemment sa traductrice française, que c'est un livre de jeunesse de cet auteur.
Oui, parce qu'on ne sait pas tellement quand est-ce qu'il l'a écrit.
Apparemment, hein. Oui, on n'arrive pas exactement à dater cet écrit. Selon elle, selon sa connaissance de l'écriture d'Isaac Bashevis-Singer, c'est un livre de jeunesse, un livre qui annonce donc les thématiques qui seront chères à l'auteur, qui est évidemment avant tout un auteur de littérature juive, un auteur juif de littérature juive. Et pour ceux qui aiment cette littérature, voilà, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes en termes de thématiques et voilà, en termes de ce que ce livre peut montrer, des thématiques qui seront ensuite celles de l'auteur. Alors il y a évidemment à la fois la joie du peuple juif de Varsovie à cette époque-là, la joie, le foisonnement par la multiplicité des personnages qui émaillent le roman, puisque on suit le parcours de Keila et de Yarmi au départ, qui est un couple qui se rencontre à Varsovie, pour ensuite, au fil de la destruction de leur couple, ne finir par suivre que le parcours de Keila, qui ensuite émigrera aux États-Unis, puis rencontrera quelqu'un d'autre. Bon, on va pas tout dévoiler, mais
Keila, en tout cas, la rouge, pas tellement pour le communisme, mais pour ses cheveux.
Voilà, pour ses cheveux.
Ils ont le aussi, oui, pour lever un équivoque possible.
Exactement. Et donc voilà, on suit vraiment, c'est un livre, c'est un récit avant tout, comme sait le faire cet auteur. C'est plus une littérature au service du récit que de la forme, puisque c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait eu son Nobel dans les années 70 en tant que grand conteur, avait dit l'Académie. Et là, on y retrouve effectivement cette capacité à conter, à raconter une histoire et à faire un récit. Fait un récit à partir donc des thématiques de l'oubli, de la fuite, de la destinée qui s'acharne, d'une certaine manière d'une fin d'un monde, en tout cas, puisque on est à peu près au basculement avant que la Seconde Guerre mondiale arrive et que le peuple juif et le monde entier avec lui sombre dans le drame. Et donc on est à cet instant-là du monde et à cet instant-là de sa littérature à lui, qui va elle aussi basculer vers, à mon sens, quelque chose d'un petit peu plus puissant sur le plan formel.
Et puis avec, on l'a noté parmi ces thématiques, la question de la langue, le yiddish, qui est évidemment toujours présent chez Isaac Bashevis-Singer. Et là, on l'a évidemment entendu. Florent Georgescu.
Oui, c'est un auteur qui incarne autant que possible la littérature juive, mais d'abord la littérature de langue yiddish. Il écrivait tous ses livres en yiddish, et c'est en yiddish qu'il publiait dans ce quotidien juif américain. Et ensuite, il faisait traduire et surveiller de très près la traduction en anglais, sur laquelle sont faites toutes les traductions mondiales. Donc nous, on est à deux poignées de main, si j'ose dire, du yiddish. Mais le yiddish est vraiment le centre, la défense, la résurrection, en réalité, du yiddish, et un des centres les plus vibrants de l'œuvre de Singer, qui disait, lorsqu'il a reçu le Nobel, lors de son discours, il a une phrase merveilleuse que l'article que le Monde lui a consacré à ce livre cité, donc je me permets de la reprendre parce qu'elle est magnifique. Il a dit donc devant l'Académie du Nobel: « Je suis sûr que le Messie va bientôt venir, que des milliers de cadavres parlant yiddish sortiront de leur tombe et que leur première question sera « Y a-t-il de nouveaux livres en yiddish ?» Et ça dit à peu près l'élan fondamental de l'œuvre de Singer. En deux mots, il faut se rendre compte de ce que c'est que l'enjeu du yiddish historiquement. Il y avait 11 millions de locuteurs du yiddish à la fin des années 30. On en compte aujourd'hui 2 millions à peu près. Et encore, il y a une résurgence. Beaucoup de gens travaillent sur le yiddish.
Je ne pensais pas que c'était autant aujourd'hui.
De praticiens, de locuteurs, le plus souvent, évidemment, très très majoritairement en seconde langue, il y a 2 millions. Mais 2 millions sur le monde entier.
Oui.
Mais surtout, ce qui s'est passé pendant la guerre et au-delà, c'est qu'on a détruit toutes les archives, tous les documents. Il y avait en Lituanie, à Vilnius et Kaunas, des bibliothèques, des centres d'études de littérature juive absolument extraordinaire, qui comptait des dizaines de milliers de livres rares, qui ont tous été détruits systématiquement par les nazis pendant la guerre. On en a fait du papier recyclé. On a tout détruit. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître des œuvres dont on n'a plus aucune trace maintenant. Et ce qui n'a fait qu'accroître cette tragédie pour le propre yiddish, en dehors de la tragédie de la Shoah elle-même, c'est que l'URSS a repris le flambeau de cette persécution des locuteurs du yiddish. Pendant la guerre d'ailleurs déjà et après-guerre, interdisant qu'on le parle et détruisant à son tour tous les documents. Singer, c'est ça. C'est sa phrase de réception du Nobel, c'est on va ressusciter des livres en yiddish. Il a fait toute cette œuvre-là. Et pour moi, la force de tous ces livres, et de celui-là, pour moi, tout autant, parce que par ailleurs, je trouve que c'est un livre d'un charme inouï. Ça, c'est une forme aussi, quand même. C'est, être un conteur, c'est une forme, c'est une grande forme, même. Il y a une vibration dans ce livre, une joie, un mélange de, comme vous le disiez, d'humour noir, évidemment. Mais
ce qui lui arrive à Kayla, on n'en a pas encore parlé. Mais
non, il lui arrive quelques vicissitudes. Eh bien oui, mais les personnages ont une sorte de vitalité telle que formellement, pour le coup... C'est le tour de force formel de Singer. C'est que son récit, lui, est joyeux. Il est joyeux parce qu'il est vital, au sens plein du terme. Il est l'expression même de la vie. Et une des choses évidemment bouleversantes avec ça, c'est toujours ce lien intrinsèque au yiddish. C'est-à-dire, on est devant un monde totalement englouti. En fait, on est en train de lire des récits amoureux et autres de l'Atlantide, d'une civilisation qui a été ravagée. Ce peuple-là de Varsovie, il n'en reste plus personne après la guerre. Et c'est ça qu'il ressuscite. Et sa résurrection est en elle-même d'une vibration et d'une joie qui, pour moi, m'emporte tout le long de ce livre, qui est par ailleurs... et extrêmement savoureux à beaucoup d'égards, et on y reviendra peut-être.
Alors, l'avez-vous savouré, Philippe Chevillé, ce livre d'Isaac Bashevis Singer, Kayla La Rouge?
Oui, beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les contes, j'aime beaucoup ce côté, justement, un peu brut. On pense au roman écrit, d'un roman de jeunesse, parce qu'on a l'impression qu'il y a des éléments très tranchants, les personnages sont tranchés, c'est très coloré d'une certaine façon, parfois un peu d'excès, mais on voit Kayla La Rouge qui, elle, est sans arrêt en train de passe de rire aux larmes, à la fois sainte et putain, parce que c'est quand même putain, il faut le dire dès le départ. Y a des personnages qui sont assez inoubliables, des personnages fascinants, comme celui de Max, qui est le personnage le méchant de l'histoire.
Max le boiteux.
qui est une espèce de Méphistophélès qui veut organiser des bordels en Argentine, etc. Et puis à travers ce que disait Florent, la description est dans une forme d'élan, la description du peuple juif de Varsovie, de cette communauté qui parle en yiddish, de ce passage perpétuel du bordel à la synagogue. Et ensuite, on a ce départ vers les États-Unis qui sont présentés d'ailleurs de façon assez sinistre. C'est à la fois très joyeux et tout le temps sinistre, parce que tout ce qui arrive est toujours assez tragique. Et puis, moi, ce que je trouve quand même dans le fond, c'est que sur le mode du roman feuilleton, il y a ce tumulte du monde qui nous parle tout autant aujourd'hui sur l'antisémitisme, bien sûr, la persécution du peuple juif, mais aussi sur la remise en cause de la famille, sur la remise en cause de la religion et du respect des traditions, sur la sexualité. On a les personnages de Max le Boiteux, est bisexuel et fait des avances poussées au mari de Kayla, plus que des avances. Tout est remis en cause. Les mouvements révolutionnaires aussi qui sont, puisqu'on a un personnage aussi, une jeune anarchiste. Donc, on a des questionnements sur le monde qui sont bien sûr avant la guerre, avant la Shoah, mais qui sont d'une certaine... Il y a cette fraîcheur de la jeunesse et qui nous les renvoie dans la figure aujourd'hui. Moi, j'ai eu l'impression de lire à la fois un feuilleton et en même temps de me reposer les questionnements essentiels du monde d'aujourd'hui.
Voilà. Ah, c'est vrai que la dimension feuilleton, vous l'avez évoqué, Jean-Christophe Brianchon, alors j'ignorais pour ma part que... tous ses livres avaient été publiés ainsi, mais en tout cas ce texte-là, bon, je l'ai lu sachant que c'était un feuilleton, et je trouve que ça se sent en effet, parce que quand même cette volonté de toujours proposer des scènes extrêmement fortes, extrêmement, et on a envie évidemment de connaître la suite, quel va être le destin de cette pauvre Kayla qui va être quand même plus que martyrisée par le boiteux, mais aussi sous l'œil et avec la bienveillante complicité de son chéri à ce moment-là, en tout cas. Puis il y aura d'autres rencontres, d'autres péripéties, mais il y a effectivement une forme d'excès qui est peut-être, alors, si c'est sa traductrice qui le dit, elle le sait en tout cas beaucoup mieux que moi, peut-être quelque chose qui est aussi lié à une écriture de jeunesse, avec peut-être moins de... Enfin, c'est pas la retenue qui caractérise Singer, mais en tout cas, peut-être que c'est moins habilement construit que certains autres textes du même auteur, mais il y a quand même un plaisir du récit, du conte, des personnages, et même s'ils sont, comment est-ce que vous avez dit, Philippe Chevrier, non pas découpé, carré, comment est-ce que vous...
Tranchant,
voilà. Je savais bien qu'il y avait quelque chose à découper là-dedans. Tranchant.
couteaux qui traînent.
Il y a pas mal de couteaux et pas mal d'entailles, mais en tout cas, c'est ça qui fait aussi que ce livre se dévore avec une forme d'appétit, alors qu'on y assiste quand même à des sévices épouvantables, et que vraiment c'est, il pourrait peindre du noir sur du noir, mais la couverture de Stock, la Cosmopolite, lui va bien, ce côté rose qui renferme tous ces sévices, c'est pas mal trouvé aussi, Jean-Christophe Brianchon.
Bah effectivement, c'est très noir, et en cela je suis pas enfin, je suis d'une certaine manière d'accord avec Florent quand vous dites que c'est un livre joyeux, mais bon, il y a quand même évidemment il y a toute une réflexion. Enfin, une réflexion, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il y a quand même un rapport que chacun des personnages entretient à la destinée est quand même très lourd et très prédéfini, puisque justement à un moment, il me semble que c'est Max qui dit à Kayla, tu es condamné quoi qu'il arrive.
Et le mérite de la clarté.
Et chacun des personnages, de toute façon, a au fond de lui cette idée-là. J'ai cette impression-là, et il est condamné. Et je pense que c'est là aussi, c'est tout se rejoint aussi bien dans les personnages que dans la forme, que dans la langue, effectivement, puisque lui-même parlait aussi, en parlant du Yiddish, parlait d'une langue mourante, d'un peuple fantôme, et on est là exactement dans la tentative de résurrection aussi bien de la langue que tentative, si ce n'est de résurrection, en tout cas de survivance des personnages qui, à travers la littérature, vont essayer peut-être de survivre, mais puisque c'est de la littérature juive et cette littérature contenant en elle-même un rapport à la destinée très contrarié, la littérature, in fine, ne pourra pas faire grand-chose. Et c'est d'ailleurs dit de manière assez explicite à la fin du roman. Il y a un passage qui parle de la possibilité de la langue et du langage à faire survivre les âmes. Et en parallèle à la peinture, le narrateur fait le parallèle avec la peinture, de savoir si le langage plus que la peinture serait en mesure de nous faire survivre. Et a priori, sa réponse est que non.
Mais bien sûr.
Georgesco.
Mais bien sûr. Enfin, c'est une réponse qui va absolument de soi. Le point de départ de toute l'œuvre de Singer et de tout ce livre-là est que c'est perdu d'avance, bien évidemment. Mais justement, la langue ne sauve personne, mais on sauve une langue. Et c'est ça qui donne cette force. Parce que je suis désolé, tout cela est vrai. Ces destins sont absolument atroces. Et il y a encore, en effet, derrière un horizon historique catastrophique. Tout, on est au-delà de toute catastrophe possible. C'est une chose évidente et entendue. Bon, mais à partir de ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on vit. Et c'est ça qu'il raconte. Et lui, il se met précisément au point où la langue, dans sa propre vitalité, dans sa propre volonté de survie, touche le désir de survivre et de vivre tout court, et le désir tout court chez ses auteurs. Il faut quand même parler de l'aspect érotique de ce livre, qui en fait un livre extrêmement enflammé et extrêmement
érotique. Le mot est faible.
Oui, enfin, il y a de tout. Quoi. Mais il y a aussi quelque chose de radieux dans cet érotisme. Il y a entre le mari et la femme au début, quand tout va bien, d'accord, une sorte de une harmonie toute puissante. Mais il y a le moment où Kayla se bourre la gueule, pardonnez-moi, dans une fête avec quelques malfrats. Elle fait scandale. Elle dit à son mari qu'elle ne veut plus de lui, qu'il est un minable et qu'elle va partir avec tous les autres hommes présents. Ensuite, elle est désespérée, il est désespéré. Ce sont des scènes extrêmement touchantes, de simplicité, de naïveté, presque dans leur rapport, d'entièreté. Ce sont des gens entièrement... Et puis, elle finit par l'attraper, ils passent une nuit ensemble, et il dit, bon, après ce que tu m'as fait, aucun homme ne pourrait garder la moindre haine envers toi.
Parce que pour se réconcilier, il lui montre des choses qu'il ignorait
qu'il ignorait. Singer ne précise pas lesquelles.
Non.
Et que fait Yarmi, son mari? Il cherche un rabbin pour être autorisé à se déjuger quand il a répudié cette femme. Il y a tous ces mouvements-là dans ce livre qui sont presque enfantins. Il y a le plus grand malheur du monde et il y a une force de vie, une force pour s'arracher à ça et un désir juste de vivre. Et la vie est très pleine, très dense, très... Alors peu importe la joie, le malheur, tout ça n'importe pas beaucoup. Ce qui compte, c'est qu'il y a de la vie et qu'il la restitue mieux que personne dans le rythme même de ce livre qui est déjà non accompli. J'aimerais bien que beaucoup d'écrivains que nous avons à lire soient jeunes, soient imparfaits comme Singer. En somme, il y a
d'accord.
Une telle plénitude là-dedans que...
Philippe Chevillier.
Ce qui est intriguant aussi, c'est que ces personnages en soi, on a l'impression, surtout quand on parle comme ça, que c'est un peu des archétypes et qu'ils sont assez...
Pas du tout.
Et finalement, ils ont tous leur part de totalement d'ambiguïté, d'équivoque. C'est-à-dire que le héros qui est fils de rabbin et qui s'éloigne de la religion et sans arrêt tourmenté, déchiré entre évidemment son attirance sexuelle pour Kéla ou une forme d'amour mais c'est pareil aussi pour les méchants, ils sont tous ambigus, ils peuvent être gentils parfois.
Et elle est là, prostituée depuis toujours, qui a fait tout ce qu'on peut faire sur cette terre et qui vit avec des malfrats depuis toujours, passe son temps à vouloir être purifiée, à vouloir une sorte de presque de sainteté.
Enfin, voilà, et donc c'est des concentrés un peu de vie comme ça, mais qui sont lâchés de façon presque sans filtre. Et encore une fois, moi, ce qui m'intrigue, c'est la façon dont on arrive, en suivant cette folle épopée, à finalement s'arrêter à des moments sur des choses fondamentales, d'un discours sur l'humanité, un discours pessimiste et qui soit pas complètement non plus, qui soit désespéré mais pas désespérant.
Kéla Larouge, c'est le titre de ce livre d'Isaac Bashevis Singer, publié chez Stock dans une traduction de Marie-Pierre B. et Nicolas Castelnau B. À suivre dans la dispute, les livres de Sylvain Christian David et H.M. Vandenbrink.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la littérature avec Fanny de Sylvain Christian David, publié aux éditions du Cendre. Le sous-titre nous renseigne sur son sujet, Histoire de Fanny Seisinger qui disparut. Mais qui était donc celle que connaissaient Alfred Jarry, André Gide, Léon-Paul Fargue, Paul Valéry, tant d'autres, et que tous appelaient la petite Fanny? Il est biographe de Lautréamont et Jarry, Sylvain Christian David, c'est lui qui a donc mené l'enquête. Elle avait un visage doux et gracieux. L'ovale en était fin, les traits purs et les yeux très innocents et versaient indéfinissable poésie dont la silencieuse tristesse était touchante parfois. Ses cheveux, qui retombaient de chaque côté de son front, semblaient deux ailes repliées. Elle se vêtait de longues robes où son corps gracile et harmonieux prenait une apparence très chaste. Elle était toute jeune et vierge, quoiqu'elle n'ignora rien de ce que savent les femmes. Elle se nommait Fanny. Fanny avait couru de bonne heure les ateliers d'artistes, elle y posait. Elle était très libre avec tout le monde, on la tutoyait, et c'était tout. On la disait une drôle de petite femme. Elle arrivait quand on ne l'attendait pas, ouvrait les portes si doucement que sa présence soudaine surprenait. Elle avait lu beaucoup, elle réfléchissait quelquefois. La vie ne l'effrayait pas, elle avait une façon très calme de la considérer ouverte devant elle et d'y marcher. Elle devait être très orgueilleuse, au fond. Ça, c'est l'extrait d'une nouvelle de Louis de Robert, publiée en juillet 1895. Et ça fait déjà un an qu'on entend beaucoup parler d'une certaine Fanny dans Paris. Une histoire qui va durer très peu de temps finalement, hein, de 94 à 98 avant la disparition, hein, l'histoire de Fanny Sesinger qui disparut. Alors on prononce le nom comme on veut, parce qu'il y a même des pages, oui, hein, qui nous expliquent.
On l'écrit même comme on veut.
Comme on veut, et on le prononce comme on veut, on a toutes, oui, les prononciations possibles.
Nous voilà tranquilles. Oui.
Mais alors c'est une des très nombreuses occurrences de cette femme, bien réelle, dans des œuvres extrêmement variées, alors soit dans, en écriture, en littérature, en roman, en nouvelle, en poésie, soit bien sûr dans la peinture, et d'ailleurs le tableau qui orne la couverture très belle des éditions du Cendre est une toile qui représente Fanny, qu'on a pu voir il n'y a pas très longtemps d'ailleurs dans une exposition du Grand ou du Petit Palais.
Petit Palais. Oui, c'était même l'affiche, je crois.
C'était même l'affiche.
Donc Fanny a ressurgi dans Paris.
Fanny a été partout.
À nouveau triomphé dans Paris en 2018, après avoir disparu en effet...
En 98. Mais pas disparu, au sens où on ne savait plus où elle était.
Alors là, d'ailleurs, je suis devant un grave dilemme déontologique
autour du divulgachage.
Parce que une des forces, ce livre pour moi a mille intérêts, mais une des choses extraordinaires qu'a réussi l'auteur, c'est qu'il a enquêté. Tout Paris s'est entiché pendant 3 ans de Fanny. On pourra revenir. Elle a connu absolument tout le monde dans Paris des lettres, des arts. Elle a été comédienne, d'ailleurs, au théâtre de l'œuvre. Elle a joué Ibsen. Mais elle a aussi été mêlée à des revues littéraires.
Minotaure.
Elle a été mêlée à tout. Ouais.
Elle a été citée partout, c'est tout.
Le livre est très épais. Il repose presque entièrement sur un rassemblement minutieux, maniaque.
Obsessionnel,
je pense.
Disons-le.
Je ne sais pas, je ne l'ai pas interviewé, mais je ne sais pas combien d'années de travail représente. En tout cas, ça représente une vie d'obsession, manifestement. Il l'évoque à la fin, je crois que c'est depuis les années 70 qu'il s'intéresse à cette figure. Bref, il a été tellement obsessionnel, en effet, qu'il a réussi à la retrouver. Et alors, peut-être, laissera-t-on cette découverte à nos auditeurs, qui quand ils se précipiteront sur le livre, mais ce qu'il a découvert est absolument extraordinaire.
Bon, alors, on ne va pas le dire pour l'instant. On verra si le temps nous permet. En attendant, il est vrai
qu'elle disparaît du jour au lendemain.
Mais elle apparaît de la même façon.
On ne sait pas grand-chose sur son apparition. Elle apparaît dans le cercle justement du peintre dont le portrait orne la couverture.
Non, la première occurrence, c'est quand même très drôle, hein, c'est en faisant du patinage artistique.
Oui, c'est la première mention dans la presse.
En 1894, elle est citée parmi d'autres comme une demi-mondaine. Évidemment, l'auteur nous explique qu'à l'époque, demi-mondaine ne veut pas tout à fait dire ce qu'on peut entendre peut-être aujourd'hui.
C'est plus vague. Ce sont des jolies femmes qui égayent Paris.
Elles sont un peu entretenues.
Elles peuvent être entretenues, elles le sont plus ou moins. En l'occurrence, on la découvre, elle, auprès du peintre Léandre, qui est un des peintres de Montmartre. Elle habite, elle, un chalet à Montmartre. Ce qui est en soi une curiosité. Je ne sais pas ce qu'était ce chalet. Cela dans le domaine du peintre Léandre, qui était lui-même assez curieuse. On ne connaît pas exactement ses relations avec Léandre. Au demeurant, on ne sait pas en effet d'où elle vient. Alors là aussi, avec un acharnement, comme fruit de son acharnement inouï, Christian David a découvert un acte de naissance probable, mais de quelqu'un qui ne porte pas le nom de Fanny, ce qui complique tout.
Évidemment, elle a triché sur sa date de naissance en bonne comédienne.
Évidemment. Par ailleurs, elle aurait triché même sur son nom, c'est assez... il a quelques recoupements possibles pour dire que c'est elle. On n'en sait rien. Donc, elle surgit tout à coup. Tout à coup, en effet, elle passe, mais pas dans un sens sexuel, si je veux dire. J'allais dire, elle passe de main en main. Elle passe d'yeux en yeux, surtout. Mmh. Parce qu'on connaît sa vie amoureuse, on ne sait pas tout de sa vie amoureuse. On connaît quelques-uns de ses amants, mais pas tous. Et il n'empêche que très au-delà du cercle de ses amants connus, tout le monde l'évoque. Gide l'a fait apparaître dans les faux monnayeurs. On a retrouvé une liste de courses de Jarry, comme le dit drôlement l'auteur, voici, après l'avoir longuement introduite, voici cette fameuse liste. Ce document ne dit rien de Fanny et ne dit rien sur Jarry, même si nous devinons une émotion dans l'alternative des boissons proposées ou possibles. Il s'agit d'une liste de courses pour une soirée entre Jarry et Fanny. Et ensuite suit charcuterie variée,
pain, une livre, des fruits, du cidre ou de la bière, saucisson, radis, côte de porc noir, jambon d'York.
Là, j'ai commencé à avoir
deux
faim.
Mots rayés, peut-être radis beurre. Voilà. Voilà, ouais. Parmi les milliers, les centaines en tout cas de traces de Fanny, ce que cet auteur a pu trouver. Il faut dire que le livre est construit de manière assez étrange. Il est construit simplement comme un dossier. On passe de document en document, à travers des questions toujours insolubles, et on finit quand même, il arrive quand même à nous donner un portrait assez complet et assez fascinant de cette Fanny.
Et à propos du fait qu'elle passait de main en main, mais rien de sexuel, il y a cette interview de Léopold Fargue en 1947 qui raconte ses débuts au Mercure, sa première publication en avril 1896, et il dit, je cite, « C'était le temps où avec Louise, Tinan, Lebé et Jarry, nous faisions des yeux la cour à Fanny Sesinger. »
Oui, c'est voilà. Ça, excellent, bravo.
De la cour des yeux.
Des yeux.
Philippe Chevillé.
Tout le monde l'a regardé.
Cette Fanny.
Alors moi, d'abord, quand j'ai découvert le livre, je me suis dit, ah là là.
Sacré Florent Georgescu.
Sacré Florent Georgescu.
Qu'est-ce qui nous fait encore lire?
Qu'est-ce qui nous fait encore lire? Ensuite, je me suis dit, ah là là, puis je suis vraiment ignorant, je ne connais pas cette Fanny. Et puis, tout d'un coup, j'ai regardé la couverture, et puis j'ai vu, bon, quand il y a l'histoire de Fanny Sesinger qui disparut, je me suis dit, il y a quand même déjà une énigme dans le titre. Puis on regarde le tableau, il est daté en quatrième de couverture, mais il n'y a pas le nom de Fanny. On s'est dit, il y a quelque chose quand même autour de cette femme qui a l'air assez étrange. Et le livre, il doit être assez étrange aussi. Et donc, quand je suis rentré dedans, on est ferré dès le départ. On a l'impression d'être dans un thriller historique, dans une première partie. Et puis, on est saisi par la description du Paris arty de la fin du 19e siècle. Donc, moi, j'étais ravi de me retrouver à le Théâtre de l'Œuvre avec ses pré-raphaélites et leurs bandeaux.
On n'a pas été aux premières d'Ibsen, nous. Hein,
non, on n'a pas été aux premières d'Ibsen. Pas aux dernières non plus, j'espère.
Jean-Christophe Bréhanchon-Cy, mais il nous racontera.
Et
d'ailleurs, c'est drôle aussi, pardon, mais parmi le côté obsessionnel, il cite même les articles où les premiers critiques qui parlent non pas seulement de ce qu'il y a sur scène, mais de qui est dans la salle, et évidemment, on voilà. Cite Fanny.
Parce que c'était un peu une...
Oui, parce qu'il y a même des documents où il y a simplement son nom qui oui. Apparaît dans un
on
coin.
On a vu Madame voilà. Fanny Kesinger qui avait l'air de faire la moue devant cette nouvelle comédie, etc., etc.
Alors, on a donc ce pari qui se construit, en fait. On a tous les personnages qui arrivent, on croise Toulouse-Lautrec, on voit entre le Centaure, le Mercure de France, elle s'assoit même sur les genoux d'André Gide. Enfin, on a
c'est la scène qui apparaît dans les faux monnayeurs, ouais. Voilà. Ce qui est une découverte de notre auteur.
Ouais. Et petit à petit, au départ, on était pris par cette description, et petit à petit, c'est cette figure qui s'impose de plus en plus, et on se rend compte que le livre a un autre projet, une autre fonction, c'est de définir ce qu'est une muse, au fond. Mmh. Et ça, c'est très beau, parce qu'une muse, ça a un côté indicible. Et tout d'un coup, on comprend, oui, c'est ça, une muse, parce que... Alors, c'est pas justement c'est pas la dimension sexuelle ou de femme entretenue, parce qu'on l'a dit comme bonne camarade, elle est très proche, et en même temps, elle a son mystère. Petit à petit, par petites touches, on a la description de ce qui est une muse, ça c'est assez formidable. Et puis après, évidemment, il y a ce basculement où elle disparaît comme Rimbaud, et qu'elle aimait beaucoup d'ailleurs, parce qu'elle
peut-être pas loin non plus,
pas très loin,
mais pas très loin. On laisse dépotiller pour
alors
l'instant.
Je sais
des
pas, on a très envie, mais
des points de suspension.
Et moi, ce qui m'a frappé, et ce qui c'est que en fait, dans cette orgie de documents, dans cette orgie de citations, et puis ces portraits qui apparaissent, parce qu'il y a des illustrations dans le livre, on a toujours ces petits moments de décalage, d'humour et parfois de poésie. Et à la fin, on se rend compte qu'on se dit, mais est-ce qu'elle a existé? Est-ce qu'ils ont tous existé d'ailleurs? Est-ce que Toulouse-Lautrec existé? On ne sait plus où on en est.
Pas sûr.
Et j'aime beaucoup, moi, la fin. La dernière phrase ne dit rien du livre.
La chute.
Mais la chute est très belle, je trouve, et ça résume un peu toute la force et l'intérêt du livre. Si l'histoire de Fanny avait été inventée, elle n'offrirait que peu d'intérêt, car ce fut une vie presque aussi étrange qu'une phrase de Shakespeare, si l'on accepte l'idée que la vie puisse être un songe ou se résumer à une phrase. Voilà, tout est dit.
Comme c'est bien dit.
Et
alors...
finalement, moi qui pensais m'embêter à lire ce livre, je l'ai lu comme un thriller et ça m'a enchanté.
Jean-Christophe, vous regrettez de m'avoir maudit.
Je regrette maintenant.
Me voilà soulagé.
Officiellement.
Oh, c'est officiel. Alors, Jean-Christophe Bréhanchon me fait regarder la quatrième de couverture. Bon, je suis très content qu'on parle d'édition du Cendre, moins content de la quatrième de couverture, mais vous savez bien que je ne les lis jamais. Il y a quelques indices, en effet, qui sont donnés sur la... sur l'autre partie de la vie de Fanny, la plus grande part de sa vie, peut-être, pourrait-on dire. Oui. Ah, double indice, piégé. Jean-Christophe Bréhanchon.
Mais je regrette aussi de vous avoir maudit, Florent, parce qu'au départ, je me suis, comme Philippe, posé la question de savoir ce que je lisais, et à vrai dire, posé la question de savoir pourquoi on le programmait là, parce que j'avais l'impression de lire vraiment une biographie d'historien. Je me suis dit, bon, alors pourquoi ? Alors c'est intéressant, c'est un pari qui m'intéresse, comme Philippe et comme vous aussi, Arnaud, allant beaucoup au théâtre, j'étais très heureux de me plonger dans le théâtre de l'œuvre, entre autres. Mais bon, j'avais au départ du mal à comprendre ce que ce livre pouvait avoir de plus qu'une bonne biographie historique. Et en fait, je me suis complètement trompé. Et c'est là tout le talent de cet auteur, c'est qu'il fait bien plus qu'un livre d'histoire et qu'une biographie. Il arrive à réellement faire de la littérature et de plein de manières différentes. Non seulement par les mots, qui, comme Philippe l'a dit et comme il a cité la fin de ce livre, ces mots qui sont parfois très doux, très poétiques, mais avant tout, j'ai trouvé que la littérature se faisait par la façon dont l'auteur envisage les matériaux qu'il utilise. Parce que même quand il utilise justement, comme le disait Florent, une liste de courses, il considère que cette liste de courses, à un moment il le dit même clairement, que ces simples mots laissés au fond d'une poche peuvent être, en les exhumant, une manière de perpétuer une vie. Et c'est de cette manière-là une façon, je trouve, très littéraire, en tout cas, de faire de l'histoire. Ça m'a fait penser à deux personnes que j'aime beaucoup, à deux artistes que j'aime beaucoup, à Modiano, qui, en recevant son Nobel, parlait de la littérature comme étant un outil au service du nettoyage, en tout cas un outil qui nous permettrait de nous défaire de toutes ces couches d'oubli qui nous recouvrent. Et là, il est exactement là-dedans, évidemment. Il se met dans une position d'auteur, ou en tout cas de personne qui croit en la littérature comme étant quelque chose qui peut permettre d'exhumer des vies et des sentiments. Et donc, il fait bien plus que de l'histoire, là. Il livre un réel geste littéraire, finalement, contrairement à ce qu'on peut penser au départ.
Alors, moi, j'ai fait comme l'auteur, j'ai fait une sorte de parenthèse pour dire, il me semble que c'est chez Gallimard qui est apparu il y a 2 ans peut-être maintenant, un recueil de discours de réception du prix Nobel de littérature, puisque on en évoque 2 ce soir, et c'est quand même une chose assez, assez fascinante à lire que ces discours de réception. C'est vrai que c'est la forme quand même de ce livre de Sylvain Christian David, pardon, je ne sais jamais dans quel ordre mettre tous ces beaux prénoms. La forme, parce qu'effectivement on a des fragments, on a des séquences, un document, un paragraphe, enfin c'est une forme très, très étonnante. Malgré tout, il arrive dans chacun des paragraphes à faire une sorte de mini-nouvelle. C'est un peu comme ça que ça fonctionne le plus souvent. Alors ça peut partir d'une liste de courses, mais ça peut être aussi sur tel ou tel tableau, ou sur tel ou tel extrait aussi d'un poème, d'une nouvelle, comme j'en ai lu une tout à l'heure. Et puis des bribes d'informations. J'aime bien, c'est celui qui est décembre 1896, Ubus en Rennes, étrange absence de Fanny à la première du Burois en décembre 1896. Il explique que évidemment, tout Paris est là, elle n'est sans doute pas pour rien dans le choix de Louise France pour jouer la mère Ubu, que visiblement elle était peut-être en froid avec Jarry à ce moment-là, elle qui pourtant était là au moment où se cristallisait chez lui l'écriture d'Ubu, qu'elle aurait sans doute voulu jouer la reine. Voilà, un petit paragraphe qui part de quoi ? D'une absence. Enfin, une absence. En tout cas, elle n'est citée dans aucun compte-rendu de cette première, qui était évidemment une première importante de l'époque, donc l'auteur en conclut qu'elle n'est pas là, et si elle n'est pas là, c'est peut-être parce que... Enfin, il y a cette façon de creuser sans cesse, Florent Georgesco.
C'est un très bon exemple de la manière dont il fabrique son récit, en fait, mais par une connaissance exhaustive. Je ne sais pas si on peut connaître quelqu'un autant que cet auteur connaît Fanny.
Si on se connaît soi-même autant, c'est déjà beaucoup.
Oui,
hein.
Oui, moi je ne sais pas si j'étais présent ou absent à tel ou tel spectacle. Donc il connaît tout, et même chacune de ses absences, en effet, c'est assez extraordinaire. J'aimerais revenir un peu sur l'effet que faisait Fanny, parce que c'est... Parce que ce n'est
pas vraiment dit, oui.
Par ailleurs, on peut se demander... Parfois, et c'est la force en effet littéraire de son livre, si cette forme-là ne pourrait pas s'appliquer à n'importe quel inconnu qu'on irait exhumer, retrouver les traces de quelqu'un est en soi.
Vu l'effet qu'elle provoque sur tous et toutes, parce que.
Mais là, il se trouve qu'en plus, c'est un personnage vraiment extraordinaire dans ces quelques années-là, en tout cas. Je ne résiste pas au plaisir de citer les souvenirs de Colette.
Ah, bah ça.
Dans mes apprentissages, donc 40
ans. Elle faisait de l'effet à tout le monde. Hein.
Elle se souvient de sa rencontre quand Willy.
Ça, c'est la dernière phrase qui compte là.
Oui, quand Willy le amène chez eux, en l'occurrence, une jeune femme. C'est dans un passage où elle parle des jeunes femmes qu'il ramenait et elle dit que ça l'amusait beaucoup et qu'elle ne se sentait pas vraiment mise en danger. Mais Monsieur Willy, écrit-elle, ça vise à d'amener chez nous un frais modèle de Léandre, le peintre dont on parlait, la notoire Fanny Z. Et je ne ris plus du tout. Voilà qui était Fanny. Celle qui a fait cesser de rire Colette. Et ensuite, elle a d'ailleurs elle donne une magnifique description physique de Fanny et aussi de son comportement. On voit une jeune femme extrêmement libre, provocante. Beaucoup de rumeurs ont couru sur elle, sur sa vie sentimentale, sur sa bisexualité possible. Tout a été dit, tout a été imaginé. On aimait beaucoup imaginer Fanny. Ouais. Mais je reviens quand même sur la question de la fin.
Non.
Si, je crois quand même qu'il faut en dire un mot. Oui. Moi, je l'ai fait dans mon article parce que.
Il est tard.
Je ne pense pas que ça défleure. Je pense qu'on a fait comprendre à nos auditeurs que c'est un trésor. C'est un coffre au trésor.
Alors, il faut aller
juste
vite parce que M. Van Den Brink nous attend.
Parce que c'est une des choses qui rend ce livre absolument excitant et étonnant. C'est qu'en réalité, elle est partie parce qu'elle a rencontré un homme et cet homme était allemand. D'une grande famille bourgeoise allemande. Elle a, à partir de là, elle qui était dans la bohème absolue, vécu sur un pied extrêmement bourgeois, mais dans une famille qui progressivement deviendra, disons évidemment à partir de 1933, une des familles très en cours du Troisième Reich. Et ainsi, Fanny, cette muse sublime, deviendra en fait une bonne dame allemande bourgeoise nazie. Et nazie par ses. Nazi socialement, nazi par les implications de sa famille, par les liens avec tel ou tel, elle devient une des notables du Troisième Reich.
Peut-être,
ce qui est un des renversements tout de même par rapport à tout le rêve que ce livre a rassemblé, c'est un renversement absolument
extraordinaire. Mais quand vous dites devient nazi, peut-être aussi, c'est ce qu'avance l'auteur, Sylvain Christian David, mais parce qu'il l'aime, sans doute aussi peut-être parce qu'elle ne pouvait rien dire de ses origines, rien prouver de ses origines.
Alors,
et que du coup,
là aussi, il ouvre aussi un dossier très complexe.
Une suspicion possible de judéité. Enfin,
non, mais
et alors, on ne dira rien de sa stèle funéraire, qui est la dernière énigme.
De Philippe Chevillier. Non, mais il y a mille autres découvertes que tout ce qu'on a pu dire.
Tout petit mot, Philippe Chevillier.
Oui, alors juste déjà pour dire qu'effectivement, la muse qui se transforme, qui se retrouve à collaborer au régime nazi indirectement, c'est vrai que c'est un renversement et c'est intéressant de voir comment il traite ça, de passer de l'horreur de la beauté à l'horreur. L'autre chose que je voulais dire sur l'apparition dont je parlais tout à l'heure de Fanny qui se fait de plus en plus forte, c'est ça m'a fait moi penser un truc qui n'a absolument rien à voir, c'est le film Rodriguez où on attend à un certain moment à voir tout d'un coup la figure de Rodriguez arriver à la fenêtre. On parle de ce documentaire, on parle donc de ce chanteur qui a été oublié.
D'accord. Mais oui. Ça s'appelle pas comme ça le film, c'est pour ça.
Sugarman.
Sugarman, oui.
Voilà.
Le film consacré à Sugarman. Et dans Sugarman, on voit.
Rodriguez, mais de quoi parle-t-il?
Alors je parle de Sixty Rodriguez qui apparaît à la fenêtre seulement aux trois quarts du film. Et là, c'est un peu pareil dans le livre, c'est-à-dire que petit à petit, il nous parle de tableaux, de peintures, et qu'on va les voir reproduites et illustrées, et tout d'un coup, elle devient beaucoup plus concrète à ce moment-là, et on bascule dans le triomphe de Fanny un peu, voilà.
Le post-scriptum de Jean-Christophe Briançon.
Moi, j'ai simplement aimé dans ce basculement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la manière qu'il a de le décrire comme étant une continuité de ce qu'elle était avant, c'est-à-dire finalement quelqu'un d'assez punk, en fait, puisque dans sa manière de s'en aller, en fait, il y a quelque chose de à la fois très élégant et très irrévérencieux, puisque elle s'en va sans laisser de traces et sans dire au revoir, comme si exactement comme elle a vécu avant, en utilisant les gens pour ce qu'elle pouvait leur apporter et se faire apporter, mais rien de plus que ça. C'est assez élégant.
Découvrez aussi la vie de Fanny vous-même en lisant Sylvain Christian David. Le livre est édité aux éditions du Cendre.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet de cette dispute littéraire, c'est Poids et mesure de H.M. Van Den Brink, publié chez Gallimard, d'une traduction de Daniel Lossmann. C'est le troisième roman de l'écrivain néerlandais que publie les éditions Gallimard. Il va nous faire partager le quotidien de deux collègues de travail, tous deux employés au service des poids et mesures. Le rêve revenait nuit après nuit, et rien d'étrange ne s'y rattachait à première vue. Il pleut, je marche sur un quai qui longe un canal obscur. Le canal est éclairé çà et là par des réverbères placés à égale distance les uns des autres. Devant moi marche un homme. Chaque fois que la silhouette pénètre un halo, durant un bref instant, je le vois un peu mieux. Ses épaules relevées, son manteau sombre, son visage blanc à travers le rideau de lumière et de pluie. Il marche devant moi, distant de deux réverbères, impassible. Je connais cet homme. Je connais aussi ce canal. Mais alors ? Alors que je presse le pas pour le rejoindre, la distance entre nous reste la même. Je la vois passer de halo en halo, sans interruption, et pourtant, j'ai beau m'évertuer, la distance ne se modifie d'aucune façon. Deux réverbères, pluie, obscurité, et le canal semble ne pas avoir de fin. Ça continue ainsi jusqu'à ce que je me réveille, avec la sensation de ne m'être pas du tout reposé, et un certain dépit vis-à-vis de moi-même et de mon incapacité à en terminer. Car à quoi ça rime cette histoire ? Ce mystère, point d'interrogation, et je m'arrête là pour donner la parole à Philippe Chevillier, vu qu'il nous reste peu de temps.
Alors, très vite.
Non, mais quand même.
Bon, alors, j'allais dire un peu pareil, pour le débat, quand j'ai vu ce titre Poids et
Vous
mesure,
en êtes voulu à vous-même de
voilà,
lire ce livre.
Je me suis dit, je ne suis pas sûr que je vais lire ce livre. Bon, l'histoire de deux collègues du service des Poids et Mesures, ça démarre dans les années 60, et puis la société va changer de taille, de vocation aussi. Et puis... C'est vrai que ces premières pages m'ont tout de suite intrigué. Il y a un style qui s'impose, qui est assez curieux, à la fois un mélange de sobriété, en même temps un peu d'énigme. Et puis surtout, une infinie mélancolie qui se dégage très vite dans les premières pages et qui m'a vraiment ferré. Ensuite, donc, on a... c'est vrai que c'est un livre qui est nostalgique, dans la mesure où on va revenir à une époque où on pesait les aliments et autres choses avec des balances, avec des poids, et donc les fonctionnaires des Poids et Mesures des Pays-Bas allaient sillonner dans les villages.
On la connaît, la combine. Hein.
Voilà, la nostalgie, c'est pas toujours ce qu'elle était. On a peur que ça soit... Moi, j'avais peur que ça soit un peu anecdotique, ou alors qu'on tombe dans l'excès inverse, qu'on soit... c'était mieux avant, une description très pittoresque des Pays-Bas. Et en fait, c'est pas ça. On arrive à avoir... C'est certainement assez pittoresque quand on va se balader avec ces deux personnages dans les villages, mais c'est pour voir des histoires toujours assez sombres, de gens très pauvres. Et on voit des gens qui sont obligés un peu de tricher avec les poids et mesures. On est pris d'abord par cette histoire de ces deux personnages, cette amitié très bizarre qui n'en est pas une. Et puis petit à petit, ça devient un peu métaphore. On est là, ces poids et mesures, ça devient une métaphore du temps qui passe, qu'on n'arrive pas à mesurer, du poids des êtres, des tricheries qu'on fait, pas seulement avec la balance, mais dans la vie. Et tout ça sur fond d'un changement de société où donc on voit se privatiser plus ou moins le service des poids et mesures. Donc... tableau de la société, une chronique de la société néerlandaise, et en même temps ce roman un peu philosophique qui est toujours sur le fil comme ça, avec toujours cette énigme qui reste, ces secrets qu'ont chacun de ces personnages, ces rapports étranges qu'ils entretiennent entre eux, le héros aussi avec sa femme, de la douceur par moments, mais énormément de mélancolie et des descriptions que j'ai trouvées très fortes, notamment lorsqu'ils se retrouvent en entreprise avec la directrice qui fait un discours d'adieu pour son collègue qui part à la retraite, qui va jalonner tout le livre. C'est très étrange comment, avec des choses très banales, il arrive à créer une atmosphère et un sentiment, encore une fois, de mélancolie.
Jean-Christophe Brianchon, avez-vous été sensible à ce sentiment de mélancolie évoqué par Philippe Chevillier ?
Pas exactement. Enfin, oui et non. J'ai été sensible, on va dire, à la beauté, d'une certaine manière, à la beauté des mots et à la beauté des phrases qui sont au service de cette mélancolie, puisque à certains instants, il faut bien reconnaître que tout de même l'auteur effectivement arrive à faire passer un certain sentiment de nostalgie qui est pas désagréable et dans lequel on peut évidemment tous se retrouver. Mais j'ai quand même eu un petit peu de mal à saisir exactement de quoi il en retournait finalement, puisque contrairement à Philippe, j'ai tout de même trouvé à certains instants que le livre versait dans une nostalgie qui pouvait finir par être une certaine forme de conservatisme, ou en tout cas de réticence au changement. qui m'a un petit peu dérangé sur le plan, alors pas formel et littéraire, mais sur le plan de l'idée. Et c'est une réticence au changement qui se trouve effectivement beaucoup dans les métaphores que l'auteur fait, et partout le symbolisme qu'il met dans chacun des événements qui se passeront dans ce livre. Et c'est un symbolisme qui m'a parfois dérangé, entre autres justement vous parliez de cette scène de discours dans ce hall d'entreprise à l'occasion du départ à la retraite de son collègue. Ce discours qui se passe sous un... vous savez, ces espèces de... qui sont des drames artistiques à mon sens, ces espèces de sculptures qui sont parfois mises dans les halls d'entreprise ou sur les ronds-points de nos villes. Là, en l'occurrence, ça se fait sous un énorme mobile qui est dans le hall de cette entreprise. Et voilà, pour rajouter du symbole au symbole du discours que va faire la chef d'entreprise, il nous parlera de ce mobile comme étant quelque chose finalement d'assez dramatique, puisqu'auparavant, les mobiles, c'était quelque chose qu'on mettait dans les lits des enfants pour leur montrer que le monde pouvait bouger, mais qu'aujourd'hui, au-dessus de leur tête, le mobile était mort, immobile, justement, et que du coup, ça voulait nous dire indirectement peut-être que le monde ne bougerait plus, ou en tout cas, plus comme avant, ce qui semble, selon lui, être un drame. Et il y a plein de petits symboles qui, comme ça, émaillent le livre tout du long, et qui, personnellement, m'ont dérangé sur le plan des idées. J'ai trouvé que le rapport au temps était un petit peu dérangeant.
Florent Georgesco.
En deux mots, j'ai eu un peu le rapport inverse à celui de Philippe, à ce livre. C'est-à-dire, quand je l'ai vu apparaître, je me suis dit, chouette, un livre sur les poids et mesures. Je trouvais que c'était...
Florent Georgesco.
Je trouve que c'est un très beau, très très beau sujet, et que dans le livre...
Le sous-titre, une comparaison.
Oui, là, ça, j'ai commencé beau. À me méfier. Non, mais c'est un excellent sujet, parce que le rapport au poids était un rapport mythique, à la question du mètre, la question du kilo. Et tout ce qui est traité, tout ce qui touche à ces sujets-là dans le livre est assez passionnant. Parce qu'il faut dire quand même qu'on y apprend énormément de choses sur l'histoire du système métrique. Moi, je ne savais presque rien de ce que...
Honte à vous.
Honte à moi, mais je l'avoue publiquement, comme vous le voyez. Donc tout cela, cette part documentaire, si on veut, était amusante. Mais au-delà de ça, je trouvais que c'était un merveilleux sujet que la vie de ces fonctionnaires-là. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Jean-Christophe, vous avez raison, il alourdit justement un petit peu la balance parfois sur le symbolique. Il ajoute ce poids que... Mais malgré tout, je n'y vois pas tellement de pensée politique. C'est une manière assez touchante de nouer à l'évolution technique du monde le destin de gens. Et c'est de ces personnages, en l'occurrence de ces deux figures, du narrateur. Et on n'en a peut-être pas beaucoup parlé, de Karl, son collègue de bureau avec qui il a débuté dans les années 60 et qui vient de partir à la retraite anticipée. Et lui-même d'ailleurs, quand il se souvient à la retraite. Donc c'est... évidemment que quand vous arrivez à la fin de votre vie, le changement du monde ne vous réjouit pas profondément. Je pense que ça ne relève que de ça. Et la manière qu'il a de nouer cette question-là, universelle, de la fin de vie, à ce sujet très très particulier du système métrique et de la question du poids, du kilo, est assez habile, assez touchante parfois, même si, à mon avis, le livre ne se cristallise pas suffisamment. Et notamment, en fait, il y a pour moi une faiblesse, c'est qu'il esquisse un personnage merveilleux avec ce Karl, le collègue de bureau, personnage étrange, très renfermé, très ronchon, très
intransigeant,
donc
lui.
Extrêmement sympathique, on a envie d'en savoir plus sur lui, et je trouve qu'il ne le fait pas suffisamment exister. En gros, Rodriguez n'apparaît pas à la fenêtre. Quoi. Le personnage peine à exister, il le fait assez peu parler. C'est assez décevant quand il parle. Il y a une longue tirade sur l'anthropocène, qui est un tissu de banalité à la mode. Il y a une longue tirade banale aussi sur Napoléon. On se dit, finalement, ce personnage qui a l'air extraordinaire n'est qu'un ronchon banal. Et on est un peu déçu à cet égard. Il aurait pu atteindre à une certaine grandeur s'il avait su développer ce personnage dans tout ce système autour des poids, des mesures, du passage du temps, de la mélancolie, de tout ce que vous avez dit aussi. Quelque chose pouvait se passer qui ne se passe pas suffisamment.
Juste pour dire que j'ai un peu le même sentiment, mais j'espérais un livre d'Emmanuel Bove et finalement c'est un
oui,
livre
c'est
de
ça, ça aurait pu
Vandenbrink.
Être...
Alors il aurait fallu que ce soit vraiment sur le narrateur. Et du coup, moi, il y a un problème de quand on n'est pas sensible comme vous à la nostalgie proposée par l'auteur, du coup on en voit plutôt les mécanismes un peu parfois un peu simplistes.
Voilà. Mais quand on est sensible à la nostalgie, on est un peu déçu aussi. Justement.
Philippe Chevillier, vraiment la conclusion très rapide.
Oui, d'abord, je pense que c'est pas justement. Je maintiens que c'est pas un bouquin réactionnaire parce que je pense qu'il y a justement dans la description qu'il fait de ces balades qui devraient être bucoliques dans la campagne. On voit bien qu'à chaque fois, il se retrouve face à des personnages qui leurs injonctions créent le malheur et donc finalement c'était pas si bien que ça cette période-là.
C'est la fin de l'émission, la
l'évolution
des
Philippe Chevillier, tout dernier mot, il doit faire deux mots.
Et juste pour dire que moi, justement, ce côté finalement assez énigmatique du livre, parce que quand même le personnage...
Non, Philippe.
Le personnage a un secret, et donc c'est aussi, il est quand même évoqué à la fin. On sait plus, et toute la fin du livre est un peu étrange, et moi je trouve que justement le fait de rester comme ça, un peu sur la surface des choses, avec cette mélancolie, fait que c'est un livre très particulier, singulier, qui m'a beaucoup plu.
Voilà. Poids et mesure de Vandenbrink, publié chez Gallimard, traduction Daniel Lossmann. Et tout de suite, avec Camille André, gagnons ce soir des hors-séries La vie, Martin Luther King, au-delà du mythe, partenariat France Culture. Quelle est la question, Camille ?
Pour quelle raison la réalisatrice Ava DuVernay n'a pu inclure aucun discours de Martin Luther King dans le biopic Selma qui lui est consacré ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Vous pouvez aussi réécouter nos émissions et vous abonner au podcast. Demain et pour une semaine, c'est Lucille Comeau qui prend les rênes de la dispute. Retrouvez-la donc dès demain à 19h en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, pour une dispute consacrée au cinéma. Elle sera entourée par Corinne Rondeau, Muriel Joudet et Thierry Chaise. Et ils et elles parleront ensemble de Jersey Affair de Michael Pierce, Mes Provinciales de Jean-Paul Sivera et Allons Enfants de Stéphane Demoustier.